Thibaut Meillant, merci d'être parmi nous à ONU Info. Donc, un nouveau rapport de la FAO est sorti. Et l'un des sujets du rapport, c'est que 5 ans après que le monde s'est engagé à mettre fin à la faim, à l'insécurité alimentaire, à toutes les formes de la malnutrition, nous ne sommes toujours pas sur la bonne voie pour atteindre cet objectif d'ici 2030. Et en plus, bien sûr, s'est greffée la pandémie de COVID-19. Donc, quelle est justement la situation post-COVID-19 et justement, vous pouvez nous faire le point?
Donc, il est vrai que la situation liée à la crise du COVID-19 aura, selon toutes les vraisemblances, un impact important sur la sécurité alimentaire et sur les formes de malnutrition. Pour autant, avec les incertitudes qui entourent l'impact du Covid et la façon de le mesurer, il faut rester relativement prudent lorsqu'il s'agit de projections. Alors, notre rapport propose tout de même des estimations préliminaires selon lesquelles la pandémie de Covid pourrait ajouter entre 80 et 130 millions de personnes au nombre total de personnes qui souffrent de la faim en 2020. Dans ces scénarios, ce sont également les groupes de population les plus vulnérables qui risquent de voir leur situation nutritionnelle se détériorer davantage en raison des différents effets sanitaires et socio-économiques de la crise du Covid. Alors, ces effets portent notamment sur les perturbations des chaînes d'approvisionnement et des chaînes logistiques alimentaires, sur la volatilité des prix, en particulier pour les aliments les plus nutritifs, sur les pertes de revenus qui sont occasionnées par les baisses d'activité, la diminution des envois de fonds, sur les comportements de consommation des ménages qui changent également et qui peuvent favoriser les produits qui peuvent se conserver plus longtemps et qui ont tendance à être moins nutritifs que les produits périssables. Et enfin, on a également l'exemple de la fermeture des écoles et donc des cantines scolaires qui a eu un impact sur le régime alimentaire des écoliers et des écolières et qui donc aura un impact également sur la sécurité alimentaire et la nutrition de ces populations.
Donc, quelle a été la situation de la faim dans le monde avant le COVID-19 et quels sont justement les résultats de ce rapport?
Ce rapport contient de nombreux enseignements en matière de sécurité alimentaire et également en matière de nutrition. Alors tout d'abord, en ce qui concerne les objectifs de réduction de la faim et de l'insécurité alimentaire, on estime, d'après ce rapport, que près de 690 millions de personnes dans le monde sont en situation de sous-alimentation chronique, c'est-à-dire presque 9% de la population mondiale. Et ce chiffre a augmenté de 60 millions entre 2014 et 2019. Parmi ces 690 millions de personnes, 380 millions se trouvent en Asie, plus de 250 millions vivent en Afrique, et c'est la région, donc l'Afrique, où les chiffres augmentent le plus rapidement. Alors, si les tendances récentes se poursuivent, le nombre de personnes touchées par la faim dépassera les 840 millions d'ici à 2030, ce qui signifie que l'objectif faim zéro à l'horizon 2030 n'est pas en voie d'être atteint. Au-delà de la sous-alimentation chronique, on estime qu'en 2019, 2 milliards de personnes sont touchées par une insécurité alimentaire d'ordre modéré ou grave, c'est-à-dire qu'environ un quart de la population mondiale n'a pas eu un accès régulier à une alimentation qui soit à la fois sûre, nutritive et en quantité suffisante. Maintenant, si on s'intéresse aux questions de nutrition, là, les défis restent importants. Il y a des progrès concernant le retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans, des progrès également concernant l'insuffisance pondérale à la naissance, bien que les cibles de 2025 ne seront pas atteintes au rythme actuel. On note tout de même que la cible d'atteindre l'allaitement exclusif au sein pour 50% des nourrissons de moins de 6 mois d'ici à 2025 est en passe d'être atteinte, puisqu'on estime ce chiffre aujourd'hui à 44%. En revanche, quand on s'intéresse aux questions du surpoids chez l'enfant, là, les chiffres se stabilisent. Et quand on regarde les chiffres de l'obésité chez les adultes, là, ils augmentent.
Donc, une des raisons pour lesquelles des millions de personnes dans le monde souffrent de la faim, de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition, c'est parce qu'ils ne peuvent pas se permettre justement une alimentation saine. Donc, comment peut-on assurer une alimentation saine à un coût abordable pour tous ? C'est un grand problème, n'est-ce pas?
Alors, en effet, donc nous restons confrontés à d'importants défis en ce qui concerne l'accès à la nourriture en quantité suffisante, mais les défis sont encore plus grands lorsqu'il s'agit de l'accès à une alimentation saine. Et il existe d'importantes disparités régionales et au sein même des régions, selon les niveaux de revenus également. Alors, le rapport montre que les pays à faible revenu consomment davantage d'aliments de base, tels que des féculents, et moins de fruits, moins de légumes, moins d'aliments d'origine animale que des pays à revenus élevés. On voit même que seuls les pays d'Asie et également les pays à revenus intermédiaires de tranche supérieure disposent de suffisamment de fruits et légumes, donc une quantité suffisante de fruits et légumes, pour pouvoir respecter le minimum de 400 grammes par personne par jour, qui est recommandé par la FAO et l'OMS. Et donc, ces constatations sont dues au fait qu'une alimentation saine est inabordable pour de nombreuses personnes, en particulier pour les plus pauvres, quelle que soit la région du monde. L'estimation la plus prudente montre qu'elle est inabordable pour plus de 3 milliards de personnes dans le monde. On estime d'ailleurs qu'un régime alimentaire sain est en moyenne 5 fois plus cher qu'un régime alimentaire qui ne répondrait qu'aux besoins énergétiques alimentaires de base. Alors, plusieurs facteurs contribuent au coût des régimes alimentaires sains. Une première catégorie de facteurs touche à la production de l'alimentation. Et à ce stade, ces facteurs touchent notamment aux questions des niveaux de productivité, au niveau des pertes élevées post-récolte, également par un manque d'investissement dans la recherche, le développement et les technologies de production. Une seconde catégorie de facteurs touche aux chaînes d'approvisionnement, puisqu'on peut avoir des infrastructures de stockage, de préservation et de transport qui sont inadaptées à des produits, type des produits périssables par exemple, ce qui occasionne des pertes importantes et donc en bout de chaîne des coûts supplémentaires. Une troisième catégorie de facteurs concerne les comportements de consommation. Et là, ce qu'on voit, c'est que ces comportements sont influencés par la dynamique démographique propre à chaque pays, la dynamique d'urbanisation, mais également par les préférences et les niveaux de connaissance et d'information des consommateurs. Enfin, il y a une catégorie de facteurs qui touche au cadre politique, dans la mesure où les politiques mises en place par les gouvernements peuvent avoir un impact sur quel type de nourriture est d'alimentation est favorisée auprès des populations. Par exemple, des mesures douanières qui favorisent l'importation d'une alimentation calorique plutôt qu'une alimentation nutritive vont avoir un impact sur le type d'alimentation qui sera disponible auprès des consommateurs.
Mais pourtant, le monde produit assez d'aliments pour nourrir le monde. Donc, quel programme la FAO aimerait voir se développer pour venir à bout de la faim dans le monde ?
Alors effectivement, oui, la faim perdure dans le monde malgré l'abondance de nourriture produite. C'est parce qu'il y a trop de personnes qui n'ont pas encore un accès suffisant à cette abondance de nourriture produite, justement. Ce manque d'accès peut venir de conditions structurelles qui contribuent aux inégalités sociales et à la pauvreté, mais il peut également provenir d'événements précis comme une catastrophe naturelle, un conflit ou même une pandémie, par exemple, comme l'actualité récente nous le montre. Donc malgré tout, éliminer la faim et toutes les formes de malnutrition, c'est un objectif ambitieux et qui est atteignable à condition qu'il y ait une volonté politique forte et des actions en commun pour s'attaquer aux causes profondes. Ces solutions doivent être structurelles. Elles doivent intégrer les dimensions de sécurité alimentaire et de nutrition dans les efforts globaux de réduction de la pauvreté et des inégalités. Alors, d'une part, les gouvernements doivent protéger les revenus et le pouvoir d'achat des populations les plus vulnérables, en mettant en place des programmes de protection sociale adaptés, par exemple. Et d'autre part, les gouvernements peuvent investir sur le moyen et le long terme de manière stratégique pour augmenter leur capacité de résilience au choc et également pour prendre des mesures politiques et réglementaires qui rendent l'alimentation saine et nutritive abordable au plus grand nombre.
Donc, que fait la FAO pour mettre fin à la faim, l'insécurité alimentaire et toutes les formes de malnutrition ? Vous avez des exemples, justement ?
Oui, alors, donc la FAO travaille depuis sa création avec les gouvernements, la société civile, le secteur privé et d'autres partenaires pour promouvoir l'engagement, la responsabilité politique, pour améliorer les capacités et mobiliser les ressources à tous les niveaux pour éradiquer la faim et la malnutrition. Pour vous donner un exemple précis, la FAO a récemment lancé l'initiative Main dans la main, qui est un outil qui permet d'accélérer la concrétisation des objectifs de développement durable, notamment l'objectif 2 sur la faim zéro, dans les pays qui en ont le plus besoin. Là, la priorité est accordée à certains pays les moins avancés, et notamment les pays en situation de crise alimentaire, parmi lesquels le Burkina Faso ou le Yémen. Dans ces pays, la FAO va identifier des opportunités à l'échelle nationale, ainsi que les problèmes de capacité et les déficits d'investissement. Ce travail va se faire en coordination étroite avec les banques de développement multilatérales et d'autres agences des Nations Unies pour contribuer à combler le déficit alimentaire et soutenir le développement économique et mettre fin à la malnutrition.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.